rencontre avec Scott Westerfeld, auteur américain né au Texas en 1963, haut déjà d'une œuvre de bonne dizaine de volumes, titulaire d'un prix donné par Locus, titulaire du GPI, Grand Prix de l'Imaginaire, qu'il avait eu pour Uglies. Donc, pour présenter Scott, une toute première question, qui serait simplement le récit de votre entrée en écriture.
J'ai commencé à écrire quand j'étais jeune. La famille de mon père est très grande. Elle a beaucoup de frères et sœurs. Et puis son père avait beaucoup de frères et sœurs, donc beaucoup d'oncles et de tantes. Et quand il y avait des réunions de famille, il y avait des douzaines de personnes qui étaient là, de l'âge de 5 ans jusqu'à 80 ans. Et c'était chaotique. Ils parlaient beaucoup, il y avait beaucoup de conflits. Mais l'après-midi, il y avait un moment où tout le monde se mettrait ensemble pour écouter d'autres personnes qui raconteraient une histoire. Il y avait un de mes grands-oncles, en fait, avec plusieurs grandes-tantes, en fait, étaient des conteurs merveilleux. Et il y avait un chaos innommable avant, mais il y a un moment donné où tout le monde venait ensemble. Tout le monde se regroupait. Il y avait cette voix puissante qui liait tout le monde. Et on entendrait l'histoire de la famille, par exemple. Donc, pour moi, l'histoire était puissante. L'histoire était importante. Et c'est ça qui a fait que je voulais être auteur. Je n'étais pas un bon auteur quand j'étais jeune, parce que je n'aimais pas les nouvelles. Mes nouvelles, en fait, ça faisait 20 pages. Et puis, ça m'ennuyait, je ne savais pas comment terminer l'affaire. Et c'était, les pingouins arrivent et ils tuent tout le monde. C'était ça la fin de l'histoire, quoi. Et en vieillissant, et j'avais la permission de trouver quelque chose, et c'était là que j'ai appris à écrire. Donc après, j'ai pu faire 200, 400 mots. Donc il y a des gens qui sont des sprinteurs, mais ils ne pouvaient pas faire des marathons. Donc moi, c'est l'inverse. Moi, je peux écrire un bon roman. Je suis marathonien, mais je ne peux pas écrire d'autres choses. Et là, après, j'ai écrit des histoires, des nouvelles qui étaient bien.
Si vous avez pris la décision de devenir un écrivain professionnel.
I got fired.
On m'a viré. Donc j'avais un boulot, et j'avais un nouveau patron qui ne m'aimait pas, il n'appréciait pas ce que je faisais, et je pensais qu'elle était un peu bête, donc il y avait un conflit. Donc c'était la patronne, donc j'ai perdu. Mais j'avais de l'argent. Donc en fin de compte, j'ai décidé qu'il faudrait que je prenne une année. J'allais essayer de devenir un auteur pour de vrai.
Se lancer dans l'écriture de science-fiction.
C'est ce que je voulais écrire, en fait. C'est ce que je lisais. Moi, je suis un lecteur puriste. Quand je voyage, quand je change d'endroit, je traverse les États-Unis, je regarde la télé, des trucs comme ça. Yeah. Donc, quand je voyage, et j'allume la télé, il y a deux personnes qui parlent. Et le premier, c'est un avocat, le deuxième, c'est un médecin. J'ai dit, bon, j'espère qu'il y en ait un entre les deux qui est vampire ou un extraterrestre. Et là, on voit en fait que c'est un médecin, c'est un avocat, rien d'autre. Là, il y a de fortes chances que je change de chaîne. je vais zapper parce qu'il me faut quelque chose de différent. Il me faut quelque chose de magique. Il faut quelque chose de fantastique ou un côté science-fiction. Il faut quelque chose de différent pour que ça m'intéresse, pour que j'ai envie de lire ou que j'ai envie de regarder. Donc, je ne voulais lire et écrire que de la science-fiction. John Varley, Samuel Delaney, Octavia Butler, Ursula Le Guin. Voilà mes influences, mes principales influences. Les auteurs de Pluvia, Heinemann, Asimov, Paul, Jules Verne, H.G. Wells. Mais j'étais très intéressé par les gens qui écrivaient dans les années 70. Moi, je suis né en 63. Donc, là, on m'a donné un abonnement au magazine d'Asimov. Donc, j'ai commencé à lire ça. Et c'est pour ça que je voulais écrire des nouvelles, même si je le faisais mal.
On peut voir qu'il y a peut-être trois périodes. Les premiers romans qui seront des romans de science-fiction. Puis après, il y a la série des Uglies, dont vous nous parlerez peut-être. Et enfin, là où vous en êtes, la série de romans steampunk qui a été inaugurée avec Léviathan. Avec le recul que vous pouvez commencer à avoir, comment est-ce que vous expliquez ce passage d'une étape à l'autre ?
J'ai toujours lu plein de genres. Et les gens, ils écrivent plein de genres, mais en fait, ils lisent largement. Du moins les gens qui aiment lire. Donc, ça m'a toujours frappé comme étant évident de vouloir écrire plein de genres. Donc, à chaque fois que je lis quelque chose qui est bien, je veux écrire quelque chose qui est comme ça. Si je pouvais écrire plus vite ou si j'avais plus de temps, là, je pourrais faire des polars, des séries télé, plein de choses. Et puis là, j'ai trouvé quelque chose que j'ai fait vraiment très très mal. Ce serait un échec tonitruant. Et puis après, je ferai quelque chose que je connais un peu mieux. Avec Léviathan, là j'ai dit dans l'autre panel, avec Léviathan, enfin, avant Uglies, ça a marché. Donc j'avais dit, mais pourquoi ne pas écrire ce que je veux, parce qu'ils sont obligés de le publier. Donc j'ai combiné le tout avec des aéronefs, avec la génie biologique, avec des machines fantastiques. Et je me suis dit qu'une combinaison de tout, un collage de tout ça, ce serait marrant. Et aussi je répondais à des livres que mes parents, ils avaient dans le grenier. C'était des aventures pour garçons des années 20 avec des illustrations merveilleuses. Je peux vous montrer des choses, là? Donc, si vous pouvez passer les images de l'iPad. Donc, un peu plus sombre aussi, s'il vous plaît. Léviathan se passe en 1914. Et quelque chose qui l'a inspiré, là, avec la sortie d'Uglies en japonais, donc, 2 années après la sortie anglaise, il y avait une édition japonaise. Et puis, j'avais le livre japonais qu'on m'a envoyé par courrier. Je trouvais ça génial. Mais quand on ouvre une édition étrangère, en fait, c'est souvent décevant. Parce que, en fait, on le voit, on ne peut pas le lire. Mais, quand je regardais l'édition japonaise, j'ai vu ça. Et c'est une illustration d'Uglies. Ce n'est pas dans la version anglaise, ce n'est pas dans la version française, c'est uniquement dans la version japonaise. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cool, ça, c'est génial. C'est là, et là, on traduit non seulement d'anglais en japonais, mais ils ont traduit mon roman de quelque chose qui était uniquement textuel à quelque chose qui était illustré. Il y a 8 images. Donc, j'ai mis ça sur mon blog pour dire que c'est fascinant. Mais il y avait des fans qui étaient vraiment outrés parce qu'ils disaient que c'était injuste. Là, eux, ils ont lu un livre sans histoire et puis il y avait des ados japonais qui avaient un livre avec des dessins. Et je me suis mis à penser et je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas d'image dans les romans pour les ados dans l'Ouest? Parce qu'il y a 100 ans, on avait des images. Là, ça vient de Persuasion de Jane Austen. On avait des images partout. Tout ce qu'il y avait de Jules Verne, Les Voyages extraordinaires, c'était des livres illustrés. H.G. Wells était illustré. Et non seulement la science-fiction et la fantasy, mais aussi les polars. Il y avait Sherlock Holmes. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il a son chapeau, là, Sherlock Holmes. Là, c'est le symbole de Sherlock Holmes. C'est le symbole pour des détectives littéraires. Et j'ai vu, parfois, qu'ils mettent le chapeau sur la colonne, de chaque roman, en fait. Mais Conan Doyle n'en parle jamais. C'est quelque chose qui a été inventé par l'artiste. C'était Sidney Paget qui a fait ça. Ça ne veut rien à voir avec l'auteur. Donc, les artistes étaient puissants. Là, c'est la version française de la guerre des mondes, en 1906. L'affiche montre que... c'est la couverture. Là, c'est montré que c'est écrit par H.G. Wells et c'est illustré par Alban Correa. C'est beaucoup plus grand. Le Alban Correa, c'est beaucoup plus grand, parce que lui, il était beaucoup plus célèbre que H.G. Wells. Donc, on peut avoir un livre illustré, et l'illustrateur était... C'était lui la vedette, en fait. Et puis, il y avait un type qui avait fait des mots à côté. Et je me disais, mais comment est-ce qu'on... Pourquoi le monde a changé autant? Là, avant, c'était l'illustrateur qui était beaucoup plus important. Donc, on vivait dans un monde illustré, dessiné. Donc là, il y avait un catalogue, par exemple. Là, on voit des images des produits qu'on peut acheter. Ici, c'est Sears et Roebuck. À l'époque, en 1906, c'était Internet, ça. On vivait dans une petite ville. On savait, à travers ce catalogue, ce qu'il y avait, la haute technologie, là, comme la machine qui parle. Là. On ouvre le journal. On voit les dessins du match d'hier. Si une maison brûle dans votre ville, le journal envoyait un reporter et un dessinateur. Donc on vivait dans un monde illustré. Et vers un siècle, l'appareil photo a tout changé. On se trouvait dans un monde avec la photo. Et ça voulait dire que le journal n'envoyait plus des artistes au match. Il n'envoyait plus des artistes à la maison qui brûle. Ils envoyaient un photographe. Et les catalogues comme 1908, ils ont changé chez Sears et Roebuck. Il n'y avait plus des illustrations, ils avaient des photos. Donc l'industrie s'est écroulée et disparue. En 10 ans, il n'y avait plus rien. Et ça voulait dire que si vous n'aviez plus d'illustrateurs, qui travaillait, donc il y avait d'autres endroits. S'il ne travaillait pas dans les journaux, en fait, il ne travaillait plus dans l'édition. Donc, ça commençait à disparaître des romans pour les adultes. Et les années 20-30, ils sont disparus des romans pour les teenagers. Et puis, à la fin, il n'y a presque plus d'images dans nos livres. Et quand j'avais 8 ans, la première fois qu'on m'a donné quelque chose où il n'y avait pas de livre. Il n'y avait pas d'image, pardon. J'avais dit, mais c'est nul, il n'y a pas d'image. Et on m'a dit, non, mais comme ça, tu peux utiliser ton imaginaire. Mais en fait, c'était des mensonges. Parce que l'imagination n'est pas venue en 1910. Ce qu'ils ont eu, c'était de l'appareil photo. Donc quand on pense à tout ça, quand j'ai écrit Léviathan, je voulais faire quelque chose avec les illustrations. Quelque chose qui était comme un livre en 1914. C'était comme être ado en 1914. Donc on a commencé avec cette carte allégorique que j'ai montrée il y a une heure. Et les deux personnages commencé à faire des portraits des deux personnages. Et ça se passe dans un scénario steampunk où un des personnages, c'est le fils de l'archiduc Franz Ferdinand. Donc, il se sent personnellement responsable de la Première Guerre mondiale. Alors, il est emmené dans un char d'assaut qui marche. Un char d'assaut ambulant. Donc là, c'est le truc de base du steampunk, en fait. Mais les Allemands, dans mon monde, je voulais que ces Allemands, je voulais avoir une apparence steampunk classique. Avec, cette espèce de destroyer ambulant. Et technologiquement, c'est beaucoup moins bizarre que je n'avais pensé. Je commençais à faire des recherches. Et mon illustrateur, Keith Thompson, à un moment donné, il a dessiné cette machine-là. Parce que il y a les Allemands qui le poursuivent dans le tank ambulant. Et donc, c'est un mélange entre un cheval et une moto. Donc, quatre membres, un pilote qui dirige et tout. Et quand je l'avais vu, je me suis dit, non, j'y crois pas. C'est trop fantastique. Ça change de tout. C'est trop bizarre. Il a dit, ah ouais, tu crois. Et en fait, en 1920, il y avait des Italiens qui ont essayé de créer une machine à marcher à quatre pattes. C'était pour se déplacer sur des terrains qui étaient pas très stables, surtout dans les vignobles où il y avait des pentes et tout ça. Et ils ont essayé de créer ce cheval mécanique. Ça s'appelle il Dobino. Je ne sais pas ce que ça veut dire en italien. Ça veut dire peut-être débile, mais bon, il débilo. Mais bon, on voit que le gamin, là, il a pas l'air très heureux. Hein. C'est peut-être pas la meilleure invention de tous les temps, mais on peut voir plein de choses. Et on suppose des choses sur les roues, les chenilles. Ce ne sont pas des choses qui sont prédestinées. Alors, quand Keith m'envoie des images, ce sont sous forme d'esquisses. Et il y a quelque chose qui m'a appris sur la narration par image. Donc, le Stormwalker, là, c'est le char d'assaut à pattes, là, et il traîne des choses comme ça derrière lui avec des cargaisons. Donc, j'avais dit, il faut changer ça. Ce serait mieux de le montrer de côté. Mais du côté de quoi, il m'a dit. Ben, du côté des deux. Ben, il a dit, mais je ne sais pas ce que tu veux dire. Et moi, j'ai dit, je te déteste. Et puis, on a commencé à s'engueuler. Et donc, je lui fais une sorte de diorama. Et j'avais dit, il faut le faire comme ça. Donc, ici, vous voyez qu'un cheval, parfois, c'est mieux qu'un cheval. Parfois, une illustration, c'est mieux qu'une photo. Les photos, c'est génial pour les catalogues, pour les journaux. Mais si vous écrivez un roman, une illustration, c'est beaucoup mieux qu'une photo. Parce que bien sûr, on n'est pas limité avec ce que vous avez. Moi, j'adore ça parce que là, il y a quelqu'un avec des éléments. Là, il fait de la soudure. Là, il y a un tigre de Tasmanie, là. Et il y a beaucoup de détails qui ressortent d'un petit truc débile que moi j'ai construit là. L'autre image, c'est quelqu'un donc qui n'est pas aristocrate. C'est une fille qui s'habille en garçon. Elle fait semblant d'être garçon pour pouvoir intégrer l'aviation britannique. Elle s'appelle Darren. Et bien sûr, il y avait beaucoup de femmes qui étaient dans les guerres, hein, donc la guerre américaine révolutionnaire, dans la guerre de sécession, il y avait des femmes. Il y avait une fille de 19 ans dans l'histoire qui était dans l'armée britannique. Alors, bien sûr, habillée en garçon, hein, ou bien homme. Alors, Darren veut intégrer l'armée de l'air, c'est parce qu'elle veut voler. Et donc, quand elle se présente comme garçon, elle essaie d'intégrer l'aéronaval. En fait, ce qu'ils font, ils envoient à 300 mètres dans l'air, dans une sorte de méduse qui respire de l'hydrogène. Alors, pourquoi le méduse? Alors, c'est parce que Darwin avait un problème de digestion, un problème intestinal. Et quand il se disputait, il y avait son ventre qui figeait en quelque sorte. Il fallait qu'il se couche pendant 4 heures. Et c'est épouvantable, surtout si on découvre l'évolution. Parce que tout le monde va se disputer avec vous. Heureusement, il y avait Huxley, un ami à lui, qui aimait bien discuter avec lui. Et on l'appelait le bulldog de Darwin, parce que c'est lui qui allait dans les débats, et c'est lui qui discutait avec les religieux et tout ça. C'est lui qui gueulait, qui hurlait, tout ce que devait faire Darwin. En fait, il faisait à sa place. Donc dans mon monde, Darwin, il a découvert l'ADN dans les années 1850. Il a commencé à créer ces animaux, ces créatures, et à fabriquer des espèces. Donc l'origine de l'espèce, en fait, c'est une sorte de livre de recettes. Et Huxley, son bulldog, il était expert S. méduse. Alors je voulais que la première créature bizarre, je voulais que ce soit une sorte de méduse pour honorer Huxley. Donc une autre créature, c'est moitié tigre, moitié loup. Et j'aime beaucoup cette illustration parce que c'est le style qui a été créé par Keith pour le livre. C'est une sorte de manga à l'époque victorienne, en fait. C'est très fin, la ligne est très fine, mais en même temps, c'est moderne. C'est un peu comme des mangas. Une autre illustration, c'est l'aéronef, ça s'appelle le Léviathan. La série est nommée en honneur de ça. Donc c'est un aéronef qui fait 300 mètres de long et c'est fait à base de fils vitaux des baleines et d'arènes. Elle travaille dessus, en fait. Donc au début, c'était comme ça, avec cette structure sur le dos. Alors ça, je ne voulais pas. Je ne voulais pas avoir cette apparence. Parce que dans l'histoire, les aéronefs, c'était comme ça. Et j'aimais bien l'idée d'avoir l'aéronef, en fait, l'idée qu'il y avait beaucoup de vent. C'était vide. Et c'était un peu comme si on était sur l'aile d'un avion. On glisse, et puis là, on tombe, et puis c'est la mort certaine. Et il y a des histoires des équipages, des dirigeables, en fait, qui faisaient des réparations. Il y avait une histoire comme quoi il s'est mis à pleuvoir. Et puis, les ouvertures se ferment, en fait. Donc, ils sont obligés de faire face aux éléments. Ils ne peuvent plus rentrer dedans. Donc là, si le vent il fait 80 km/h, là, ils sont là, ils doivent faire face à ça. Alors, je ne voulais pas le petit truc civilisé, là. Je voulais quelque chose de plus cru.
Donc nous avons vu donc ici Darren qui se trouve donc sur l'aéronef. Il y a l'avion allemand et Darren donc est relié par des cordes à ses compatriotes. Et donc si quelqu'un tombe d'un côté, elle peut elle sauter de l'autre côté et se contrebalancer un petit peu la chute de l'autre. C'est une façon dont pour l'équipage de rester en vie. Autre illustration qui vous montre donc l'aéronef, mais d'en dessous. Et ce que j'ai appris sur l'écriture d'un livre illustré, c'est qu'il faut que vos personnages se déplacent. Si vos personnages sont toujours dans la même pièce, scène après scène, après page, alors Keith doit donc dessiner cette même pièce toujours et encore. Et donc, d'un point de vue visuel, c'est difficile de rendre tout cela intéressant. Donc là, on voit mes personnages qui vont au-dessus de l'aéronef, sous l'aéronef, ils vont même à l'intérieur de l'aéronef. C'est un petit peu comme Jonas hein, dans le corps de la baleine. Vous voyez, il y a bon nombre de choses qui se passent de cette sorte-là, pour lesquelles j'écris quelque chose, et lorsque Keith le dessine, bien, je me rends compte qu'il faut que je réécrive. Il y a eu une séquence de scènes qui se passe la nuit. Je lui ai donc dit, bon voilà, présente-moi un petit peu des esquisses, hein, après plusieurs chapitres. Et là, j'ai dit, pourquoi est-ce que c'est si noir, c'est si sombre? Et il m'a dit, mais c'est la nuit. J'ai dit, bon, d'accord, il faut que je change un petit peu la structure de l'histoire, là, pour faire que ces scènes soient un petit peu plus éclairées, pour que la mode visuelle soit plus intéressant. C'est comme être, en fait, un réalisateur de film, et les auteurs de bandes dessinées, comme les réalisateurs de films, savent ceci. Mais moi, en tant que romancier, j'avais perdu cette capacité. Il y a 100 ans, les romanciers savaient, connaissaient cela. Parce qu'ils s'attendaient à ce qu'il y ait des illustrations dans leurs romans. Mais aujourd'hui, notre monde, on ne s'y attend pas. Et puisque je déplaçais donc mes personnages, nous avons commencé, nous aussi, à faire des plans du navire, de l'aéronef, afin de savoir où tout se trouvait. Ils ne sont même pas inclus hein, dans le roman, hein. On n'a pas de scène qui les mentionne dans le roman, ce sont juste des schémas pour nous. On a fait aussi des dessins en couleur des animaux, afin de savoir vraiment à quoi ils ressemblaient. J'ai aussi fait une coupe, ou Keith l'a fait en fait, hein, de l'ensemble de l'aéronef, afin qu'on puisse savoir ce à quoi il ressemblait aussi de l'intérieur. Et voilà aussi quelques dessins des machines des clankers. L'un de mes protagonistes passe donc des mois à essayer d'échapper les Allemands dans un tout petit espace. Et lorsque j'écrivais ceci, il ne m'est pas paru qu'il était nécessaire de dire que c'était vraiment petit, de savoir si c'était vraiment petit. J'avais, moi, une idée mentale, mais pas émotionnelle, de la petitesse de la chose. Mais lorsque Keith l'a dessiné, eh bien, les choses me sont apparues beaucoup plus claires, beaucoup plus réelles, en fait. Et je me suis toujours considéré comme étant un écrivain, un auteur visuel. Mais on n'est jamais aussi visuel que ce que l'on croit, en fait. Et jamais aussi visuel qu'un artiste visuel, puisque ça, c'est vraiment leur travail. Et Keith est un meilleur ingénieur que moi, hein, dans ce domaine. Et j'ai donc dû revenir, après avoir vu ceci, réécrire la scène pour pouvoir montrer, en fait, le côté oppressant de la chose, hein. C'est comme vous êtes un petit peu les uns sur les autres hein, pour une photo. Vous êtes peut-être trop près les uns des autres. Et c'est en fait ce sentiment qu'il fallait faire ressortir aussi. Et bien sûr, très rapidement, ce que j'ai apprécié avec ce livre, eh bien, c'est qu'on peut s'amuser aussi. Et bien sûr, il y a aussi ces personnes qui ont voulu construire ce qu'ils voyaient dans le roman. Donc il y a des recréations en Lego de mes machines, des dessins à la Keith, on va dire, hein. Donc ce type d'illustration édouardienne reprise, mais avec une main différente, avec un style différent. Et comme je l'ai montré aussi il y a quelques heures, quelques personnes le font à la manga. Et bon, beaucoup de gosses lisent des mangas aujourd'hui, et ils voulaient recréer ces personnages. Et voilà ce qu'ils considèrent être une illustration correcte. Ils ont donc laissé tomber donc, le style victorien de Keith, et ont retravaillé tout ceci au style manga. Donc oui, c'était un apprentissage très intéressant. Devenir un romancier visuel, un romancier illustré, c'est un art différent et c'est un art qui a malheureusement beaucoup disparu. Nous avons donc des romans graphiques, des réalisateurs de films, mais peu de personnes écrivent des romans pour les ados, pour les adultes, où on s'attend à ce qu'il y ait des illustrations. Et je dois dire que c'est presque triste de penser que certaines de cet art a disparu. J'aimerais réellement voir cet art revenir, afin que les gens donc s'attendent à lire des romans dans lesquels il y a des illustrations et non pas juste prétendre que parce qu'il y a des images dans un roman, c'est pour les gamins.
En lisant enfant des livres illustrés et ragé parce que l'illustration n'était pas insérée au bon endroit dans le texte. Soit l'illustration était placée trop tôt, soit trop tard. Comment est-ce que vous avez travaillé justement pour décider de la scène à illustrer, la phrase à illustrer? Est-ce que c'était votre choix, le sien?
Ce que l'on fait, c'est que, j'écris quelques chapitres, je les envoie à Keith. Ensuite, de son côté, il m'envoie un email des scènes qu'il souhaite illustrer. On s'écrit comme ça plusieurs emails, on se répond. Et ensuite, il m'envoie quelques esquisses, dont je viens déjà montrer une. Donc ces esquisses sont très, très, très simples, très brutes. Et quelquefois, je ne vois même pas ce qu'il veut dire dans son esquisse. Mais c'est la façon dont on s'approche du dessin final. Et quelquefois, je lui donne donc en fait l'atmosphère que je souhaite voir, une atmosphère sombre, de peur, ou avec plein de lumière. Et très souvent, il nous faut choisir ce qui va créer la diversité au sein d'un groupe de chapitres. Par exemple, s'il y a quelques scènes, les unes à la suite des autres, avec de gros objets, des choses énormes, si je peux vous en montrer, telles que ces énormes machines qui descendent les rues d'Istanbul, cet éléphant mécanique. Je suis sûr que vous en avez jamais entendu parler ici à Nantes, d'un éléphant mécanique. Et lorsque vous faites pas mal de ces images-là, alors, vous voulez aussi peut-être créer quelque chose de plus près, non, regardez pas, quelque chose de beaucoup plus près avec deux personnes. Donc vous allez à des images qui sont plus des images de paysage à des portraits, en fait, pour créer un équilibre. Donc on discute de tout ceci. Et Keith m'envoie ensuite donc le dessin final. Et c'est ensuite qu'on en parle à l'éditeur. Si on met l'éditeur à la fin, toujours, c'est ce que j'ai fait qui a été unique pour la série des Léviathans, c'est que moi, j'ai payé l'illustrateur. Donc ce n'est pas l'éditeur qui paye, c'est moi. Et donc je suis, moi, le patron. Alors maintenant, je vais supprimer un petit peu cette photo. Oubliez que vous l'avez vue, parce que ce n'est pas vraiment visible par tout le monde.
Le choix de la scène à illustrer.
Ah oui.
Again.
Le choix.
C'est un débat entre moi et Keith. On essaie d'avoir une illustration par chapitre, 50 illustrations donc par roman, et tout ce qui est intéressant reçoit son illustration.
Il y a une question que l'on m'a demandé de vous poser, qui est de savoir justement s'il existe à la vente des reproductions grand format de ces illustrations.
Oui, il y a donc une série de présentations ici, de ce côté-là. Mais non, c'est par là, pardon, derrière là. Donc vous pouvez les voir, en grand format, elles sont bien mieux parce qu'il y a beaucoup plus de détails, on voit les lignes. Et si vous allez sur keiththompsonart.com, le site web de Keith Thompson, vous pourrez voir qu'il a donc un site en ligne où vous pouvez acheter bon nombre de ses illustrations. Donc oui, vous pouvez les acheter en grand format ou en format plus grand.
Peut-être vous laisser la parole un petit peu si vous souhaitez poser des questions à Scott. Profitez-en, ne soyez pas timide.
Est-ce que vous comptez faire un film de la série Uglies, Pretties, Specials?
Pour la série Uglies, il y a une option déjà pour un film, et ce depuis à peu près 5 ans. Bon nombre de personnes s'y sont intéressées. Bon nombre d'entreprises, Screen Gems, Columbia, la Fox aussi s'y sont intéressées. Mais ce qui se passe, je pense, c'est qu'à chaque fois que les producteurs se retrouvent dans une pièce avec quelqu'un qui peut réellement financer le film, cette personne dit, voilà, 2 secondes, vous voulez faire un film sur des gens qui sont moches ? L'idéologie d'Hollywood et l'idéologie de Uglies vont à l'encontre l'une de l'autre. Mais je pense que c'est mieux ainsi si quelqu'un qui l'a lu lorsqu'il avait une douzaine d'années, donc quelqu'un qui l'a lu quand il était jeune, donc grandit et devient producteur de films. Ça serait mieux, en fait. Si l'on pense là à l'adaptation la plus proche, elles ne sont pas faites 2 ans après le livre, mais 20 ou 30 ans après le livre. Peter Jackson n'a pas lu Le Seigneur des Anneaux quand il avait 35 ans. Il l'a lu lorsqu'il était gamin et qu'il était donc avec une communauté de personnes qui l'ont lu au même âge et qui ont fait des jeux de rôle avec ce monde et qui connaissaient ce monde très très bien. Donc peut-être que c'est mieux pour un livre d'avoir existé pendant un certain temps avant qu'il ne soit tourné en film. C'est ce que je me dis, du moins, à moi-même.
Bonjour, donc j'avais une question à propos de l'esthétique steampunk de votre œuvre. Donc vous avez choisi de faire du steampunk sur l'ambiance Première Guerre mondiale en Europe. Est-ce que c'est en partie parce que vous pensez que le steampunk aux États-Unis aurait pu être plus ardu à illustrer ou à mettre en scène, ou c'est juste un intérêt pour l'Europe? En bref, est-ce que vous pensez que le steampunk peut être particulièrement bien adapté aux États-Unis, ou est-ce qu'il lui manque un contexte proprement européen?
Non, non, je pense que le steampunk, c'est super partout, en fait. Et bien sûr, il y a eu beaucoup plus de steampunk aujourd'hui. Sherry Prince Bond Shaker, par exemple, a lieu à Seattle. Donc, c'est un steampunk du Weird West. Hein. Dans le livre 2, dans le volume 2 du Léviathan, là, on va à Istanbul. On peut voir qu'il y a une mosque et autres. Et on pense que la Turquie, c'est l'Europe. Mais en 1940, c'était un monde totalement différent. Ce n'était pas du tout un pays européen. C'était oriental, c'était islamique, c'était quelque chose d'autre. Dans le volume 3, toujours de Léviathan, nous sommes déplacés, avons voyagé jusqu'au Japon, en Sibérie, aux États-Unis. Alors, si vous me laissez une seconde, je pourrais vous montrer quelque chose qui n'a jamais été vu par qui que ce soit d'autre que Keith et moi-même. Alors, où est-ce que c'est? Voilà. Nous avons là quelque chose qui ressemble à du steampunk à la japonaise. C'est à Tokyo. Voilà donc un navire de guerre allemand attaqué par ces vaisseaux sous-marins. Les Japonais utilisent ça, les kappa en fait, qui sont des esprits sous-marins qui ressortent de l'eau et qui attaquent les navires. Alors ce qu'on a essayé de faire, bon, c'est de nous représenter comment ces différents pays pouvaient rentrer dans l'esthétique steampunk, soit les darwinistes ou les clankers. Le Japon, pour moi, j'ai pensé, utiliserait aussi bien des machines que des animaux. Comme les gens au Japon donc célèbrent Noël et aussi les vacances Shinto et le bouddhisme. Vous voyez, ils adaptent en fait toutes les différentes technologies là. Aux États-Unis, le Nord est clanker et le Sud est darwiniste, puisque le Nord est plus industriel et le Sud est plus agraire, on va dire. Donc vous voyez, j'ai pris mon propre steampunk, ma propre formule de steampunk, et je l'ai fait voyager un petit peu partout dans le monde, comme mon Zeppelin hein, voyage partout dans le monde. Donc c'est plus que des livres européens hein, pour les 2 et 3, pour les volumes 2 et 3. Question suivante, s'il y en a une.
Alors tout d'abord, moi j'aimerais bien faire une remarque. Oh. J'aimerais faire une remarque sur ce que vous avez dit à propos de l'illustration. Je trouve ça assez fascinant parce que c'est vrai que moi j'ai connu l'époque où quand j'étais petit, on m'a dit « Maintenant tu vas lire des livres d'adultes, c'est-à-dire des livres sans images. » Et je trouve ça très intéressant parce que c'est vrai que pour moi je trouve que le dessin est une manière d'appréhender la littérature et inversement la littérature permet d'appréhender aussi l'art dans sa majorité. Et donc je trouve que c'est quelque chose de très intéressant ce que vous aviez dit. Et je me demande si personnellement c'est pas aussi un problème d'édition, parce que très souvent il y a des auteurs qui ne peuvent même pas choisir la couverture de leur livre. C'est un problème que je pense existe assez souvent dans les métiers du livre. Et mon autre remarque qui va amener vers une question, c'est, je trouve ça assez intéressant au niveau de la Première Guerre mondiale, la façon dont vous l'appréhendiez, c'est que nous en France on a assez souvent l'habitude de voir un schéma assez dualiste entre forcément ce qui équivaut aux darwinistes et aux clunkers, c'est-à-dire en fait une lutte entre le bien et le mal. On a très souvent un aspect manichéen dans l'étude historique de la Première Guerre mondiale, et je trouvais ça assez fascinant que vous essayiez de lutter contre cette vision du monde bien et mal, mais je voudrais savoir si ça n'a pas été dur d'échapper à ça.
Il est intéressant de voir que très souvent... Bon, il y a beaucoup de choses là, en fait. Hein. Mon agent à Hollywood m'a dit que Hollywood n'aimait pas la Première Guerre mondiale, donc il ne ferait, en ferait jamais un film. Parce que la Première Guerre mondiale n'a pas les nazis. C'est d'un point de vue moral, c'est trop ambigu. Et il n'y a pas le bien et le mal, hein, voilà. Parce que c'est côté dual, hein. Bon, c'est peut-être différent d'une perspective française, du côté américain, c'est quelque chose d'européen tellement fou, voilà, point. Mais bon, je voulais qu'il y ait un équilibre. Je demande souvent à des écoliers, est-ce que vous êtes un darwiniste ou est-ce que vous êtes plutôt clankers? Et ils me posent la même question à moi. Et c'est ce que j'aime, parce que j'aime beaucoup cette dualité. J'aime bien qu'elle soit quand même équilibrée. Donc je veux qu'il y ait des choses intéressantes sur les machines. Elles sont fantastiques, elles sont magnifiques. Alors que je veux aussi que ces animaux génétiques, machines génétiques, là, soient aussi intéressants et sympas. Donc vous voyez mes deux personnages, en fait. Lorsqu'ils voient leur monde respectif, tout d'abord, ça leur semble horrible. Alec déteste Léviathan parce que il est trop chaotique, il pue en fait, il y a de la vie. Il préfère ces machines en fait qui sont plus dures, hein, et qui ont des angles droits. Nous avons en fait créé deux esthétiques différentes que vous pouvez voir ici. Il y a cette machine là, Clanker, sur le dos de laquelle se trouve Alec. C'est vraiment du métal, hein. C'est très très dur. C'est vraiment de l'acier, hein. Alors que le Léviathan, là c'est donc la cabine du capitaine. C'est tout en courbe. Ça ressemble à des coquillages, c'est vraiment organique. On voulait créer deux esthétiques différentes, l'une étant beaucoup plus allemande, hein, le Bauhaus, l'autre étant plus Art Nouveau, plus française, en conflit. Et donc mes deux personnages, sorte de Roméo et Juliette en fait, hein, donc voient le monde avec deux perspectives différentes, totalement différemment. Mais pour que ça fonctionne, il fallait qu'il y ait quand même un équilibre. On ne pouvait pas être manichéen du tout, hein. Il fallait que les deux côtés soient intéressants, attirants. L'un peut-être plus, mais ça ne veut pas dire que vous détestez l'autre côté.
Une autre question ?
Et est-ce que maintenant vous avez des nouveaux projets ? Enfin, quels sont vos projets pour...
Je fais une bande dessinée. Je vais faire bientôt une bande dessinée, un roman graphique. Bientôt, bon, c'est un secret, hein, donc je ne vous dirai pas de quoi ça parle. Je vais collaborer donc avec Keith. Nous allons travailler avec un artiste pour aller encore un peu plus dans cette direction graphique. Bien sûr, il y a trois... livre à écrire, le deuxième vient de sortir aux États-Unis, le premier n'est sorti qu'en premier en France. Il y a donc Léviathan, Behemoth et Goliath, mais nous allons faire aussi un quatrième livre, parce que dans la grande tradition de la science-fiction, les trilogies doivent avoir quatre livres, et le quatrième livre donc sera donc de l'art en couleur, hein, pas un grand format, mais très, très graphique, tel que les Spiderwick Chronicles, où il y a donc en fait un guide, hein, quelque chose en format beaucoup plus grand, tel que, en fait, ça sera le livre des dessins de la série, peut-être. Hein. Donc après, ce que je dois faire après avoir écrit le troisième, bon, je ne sais pas vraiment ce que sera mon prochain roman texte. Mais bon, ce serait bizarre pour moi d'écrire un livre où il n'y aura pas d'image. Hein. Mais j'attends vraiment l'étrangeté de cette chose.
Encore le temps pour une dernière question, peut-être.
Je voulais juste savoir les symboles qu'il y a dans Midnighters et qui représentent chacun des personnages. Comment ça vous est venu et si c'est vous qui les avez dessinés, inventés?
In Midnighters.
Yes.
Oui. Yes.
Mon éditeur devait les faire normalement. Et ils ne l'ont pas fait. Voilà. Je pensais qu'ils le feraient, mais bon, ils étaient peut-être fainéants, stupides, j'en sais rien, mais bon, ils n'ont jamais pu le faire. J'ai donc dû les faire, moi, très rapidement, les créer rapidement. Et je n'avais aucune capacité au dessin. Je suis le pire artiste dans ce domaine au monde. Et donc, j'ai utilisé un programme pour faire des fractales, en fait, hein. Des images, hein, mathématiques, hein. Vous mettez des chiffres et ça crée des formes. Et puisque le Midnighters a un élément mathématique, je pense qu'il serait vraiment assez sympa si ces fractales, les symboles de Midnighters étaient des fractales. Alors j'ai mis des chiffres un petit peu au hasard et ça a créé des formes. Voilà, c'est ça, j'ai dit ça, voilà, ça c'est Rex. Mais malheureusement, le programme que j'ai utilisé, je l'ai perdu. Donc je pourrais pas vous montrer les fractales réelles parce que c'était vraiment magnifique. Mais bon, elles ont disparu et font partie de l'histoire maintenant, avec un grand H.
Non. Bien, je ne peux que vous encourager à aller jeter un coup d'œil là juste sur notre gauche à l'exposition des œuvres de Case Thompson et remercier Scott Westerfeld pour sa présence et tout ce qu'il a pu nous dire.